Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Non mais t'as pas reçu, toi, en tant que cinéphile, sériephile, des messages de plein de potes qui te demandaient de l'aide, genre quoi regarder en ce moment ?
Ouais, si, si, j'ai des petites conversations comme ça, effectivement. Alors c'est vrai que moi, le premier, j'ai un retard à rattraper, donc moi je suis aussi demandeur de ça. Mais effectivement, je suis un peu dans ces discussions en ce moment, toi aussi ?
Ah ouais, mais complètement.
Mais je crois qu'il y a aussi le clivage là qu'on voit assez clairement des gens qui ont des enfants. Et des gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que moi, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est les gens qui ont des enfants. Hein. Ils viennent demander à la meuf qui n'a pas d'enfants et donc qui a tout le temps du monde pour avoir tout déjà regardé.
Donc c'est celle, et même tu as eu le temps
de leur faire une liste. Carnet, je leur ai fait des listes par plateforme, machin, avec les notes et tout. J'aurais fait des mini résumés. Voilà, parce que moi, j'ai
pas. Et il était temps de partager ça avec le reste du monde, quoi. On ne pouvait pas se garder ce knowledge-là.
Bon, nous, on est en mode parent ingrat, puisque maintenant, on regarde les séries, qu'elles soient là ou pas, et du coup, elle essaie de nous empêcher de regarder la série. Parce que nous, on regarde, on est comme ça, on essaie de regarder. Voilà, on nous dit, il y en a marre, quoi. Sinon, on va rattraper notre retard en 2025, tu sais.
Ouais, c'est clair.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est en me demandant, tiens, il y a quoi à regarder, j'ai remarqué que Netflix, c'était plus aussi, j'allais dire, premium que ce que ça l'était, tu vois, parce qu'il fut un temps où toutes les séries, c'était sur Netflix, et maintenant, tout ce que j'ai plus envie de recommander, bah, c'est plus vraiment sur Netflix, en fait.
Ouais, pourquoi pas, mais parce que aussi, en fait, par exemple, si on prend Prime, c'est que des vieux trucs. Donc forcément, ouais, c'est pour revoir des vieux trucs. Là, Prime, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais en termes de trucs récents, de nouveautés, par exemple, Prime, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Bah, il y a leur série à eux, quoi.
Ouais, mais il n'y en a pas énormément non plus. Ouais, alors que Netflix, ils ont beaucoup de séries à eux, mais tu les as déjà toutes vues.
C'est ça.
Donc, tu n'es pas encore prêt à les revoir.
Je crois que c'est parce que tu as tout vu, en fait.
Ouais, c'est peut-être ça. Parce que toi, tu te retrouves à regarder quoi, du coup ? Plus Netflix, plus autre chose ?
Alors, moi, j'ai une chance exceptionnelle. C'est que moi, je suis abonné Canal. Et j'étais pas mal agacé quand Canal a dit « Oui, Canal Plus gratuit pour tout le monde. » Moi, j'étais là « Oui, mais moi, je paye. »
Alors que toi, t'as payé.
Et en fait, non, ce qui est trop bien, c'est que j'ai eu le plaisir d'arriver sur mon iPad un soir en mode cocooning série. Et en fait, comme j'étais abonné Canal, j'ai eu en plus gratos tous les bouquets CanalSat plus OCS gratos, tu vois.
Ah merde, mais on a ça nous aussi ?
Ben, nous, en fait, on a pris juste... parce que nous aussi, mais on a pris que Canal série où il y a OCS, en fait. Donc forcément...
Oui, mais tout le bouquet. Peut-être qu'on a le reste du bouquet aussi.
Ouais, mais on regarde jamais, en fait. Qu'est-ce que tu vas regarder ? Il n'y a plus de sport, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas
Van, on regarde du sport.
Ben, c'est pour ça. Il y a Canal plus sport.
Ouais, donc, donc en fait, je crois que... En ce moment, Canal plus et OCS, c'est un peu le combo ultime en quality de série, quoi.
Ouais, totalement.
On est d'accord.
Et surtout, et j'aurais tendance à dire que... Pour les gens et pour ceux qui ont envie de rattraper, si tu as envie de payer un truc, Je pense que Canal+, c'est le mieux parce que la quantité de créations originales de ouf qu'il y a, vraiment, c'est très qualitatif, quoi. C'est-à-dire, il y a, genre, il y a 4 saisons de Bureau des légendes, il y a 4 saisons de Gomorrah.
La cinquième qui sort bientôt.
Il y a eu 2-3 séries, il y en a notamment une qui m'a foutu une grosse claque récemment, qui sont vraiment à voir. Et voilà, donc du coup, je pense que Canal, c'est, en termes de séries, c'est vraiment très cool.
Ouais, carrément. Et puis depuis hier, maintenant, avec le Bouquet Canal, il y a Disney+, en fait, qui est gratuit avec. Donc c'est vrai que là, j'avoue que... Alors c'est vrai que le prix change la donne aussi, parce que tu vois, c'est Netflix, c'est que, entre guillemets, 10 € par mois. Amazon Prime, techniquement, si tu l'achètes pour te faire livrer des choses à domicile, tu l'as gratuitement. Donc ça fait quoi, 50 €? Donc ça fait moins de 5 € par mois. Donc c'est vrai que c'est autre chose. Canal+, c'est vraiment genre l'effort de je paye de l'art, quoi.
Et Apple TV, c'est combien?
Pardon?
Apple TV, c'est combien?
Je sais pas, je connais même pas leur offre en France. Ouais. Je sais même pas si ça existe déjà en France.
Ça a pas fait un petit flop, Apple TV, parce que personne n'en parle, en fait. Qu'est-ce qui se passe?
Ben en fait, je sais que leur contenu, ce qui... produisent eux, c'est très bien, mais ça c'est diffusé par Canal+, par exemple.
Ah d'accord.
Non,
fait.
Pas tout.
Non, pas tout, mais pas mal de séries sont diffusées par OCS, pardon. Donc en fait, c'est comme HBO, quoi. Ça a été un peu racheté. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par ce qu'on recommande à regarder sur Netflix?
Allez.
Et justement, on va rentrer dans le truc de peut-être rattraper un peu votre retard. Pour ceux qui ont pas eu le temps, parce que moi je réalise que mes 3 choses que je recommande sur Netflix, alors déjà bizarrement il y en a 2 où ce sont des dessins animés. Et le troisième, c'est un truc qui est fini depuis longtemps, mais je pense que c'est important de regarder ça. Et aussi ça fera un peu ce tunnel de pour penser totalement à autre chose, parce que moi j'ai mis BoJack Horseman. La série animée où il s'agit d'une vieille star cheval d'une série des années 90 et de son espèce de comeback dans un Hollywood où il y a des animaux partout. Je trouve ça très très drôle, très bien joué, mais aussi avec des côtés dramatiques très très bien maîtrisés, très bien écrits. Donc il y a eu 5 saisons, la 5e est sortie, enfin est finie,
a
clôturé un peu la série, il y a un mois je crois,
ouais, je pense.
Mois ou deux, donc je pense que c'est le moment de revoir ça. Il y a Rick et Morty, là c'est une série qui continue encore, mais Rick et Morty, là pour le coup, en termes de pause dans le confinement, c'est drôle quoi. C'est vraiment, non mais tu vois, ça va, c'est rapide, ça, c'est fun, ça va dans tous les sens. Là aussi, c'est très bien écrit, voilà. Mais au moins, on pense totalement à autre chose, quoi.
Parce que, attends, juste pour revenir à BoJack, moi, je mettrais bien un trigger warning pour les gens qui ont une tendance à la dépression de pas regarder BoJack pendant le confinement. Tu vois, je pense que ça peut, parce que surtout les 2 dernières saisons, c'est quand même plutôt dark.
Ouais.
C'est, enfin, ça fait plus drama, si tu veux, que fun. Du coup, si t'es un peu
pas en forme, faut voir son ou sa psy au moins par Skype.
C'est ça.
Pour les 2 dernières saisons.
Et du coup, c'est marrant là, parce que ça m'amène à poser une question. C'est est-ce que vous êtes plutôt, parce qu'il y a 2 catégories. Est-ce que vous faites partie de la catégorie des gens qui, en pleine pandémie, adorent voir des séries sur des virus ou négatives, ou plutôt vous êtes plutôt de la catégorie de gens qui sont en mode on refuse de voir la réalité, on veut du fun, tout ça quoi. Que vous faites partie de quelle catégorie?
C'est la question qu'on se posait la dernière fois dans l'épisode pour recommander des films avec Arnaud là, dans le sens où genre oui effectivement soit il y a des gens ils ont envie de rentrer dans la catharsis du truc, d'aller regarder Contagion, Alerte, Jason Hoffman et se dire bon quand même c'est moins pire que l'Ebola et donc de se sentir mieux, ou alors on est tous en mode non on va regarder des comédies musicales, on va regarder Chicago et on oublie totalement le monde dans lequel on vit.
Ouais, moi je suis plutôt du côté, j'ai pas trop envie de regarder des trucs anxiogènes. Si j'ai envie d'être anxieuse, je lis l'analyse économique de Mediapart et j'ai envie de mourir, tu vois. Donc,
ouais, c'est clair. Tu lis Twitter si t'as envie d'être anxieuse.
Donc non, moi je suis plus à vouloir fuir. Ouais,
j'avoue. Et toi?
Ben moi c'est un peu pareil. Moi je suis un peu en mode, j'aime bien regarder Friends, tu vois, par exemple, genre de la sitcom, ouais. De la sitcom, oui. Complètement irréelle, tu sais. Ouais. c'est vrai que j'avoue que c'est un peu badant de, genre dès que je vois le poster de Walking Dead, ça me fout des frissons, quoi, tu vois. C'est genre, c'est alors du coup j'aimerais un entre deux, peut-être Coronavirus le musical, tu vois, un truc un peu à la team America en version Coronavirus. Ça serait cool.
Qui l'eût cru, tout le monde se disait genre pour la fin du monde il fallait des habits en cuir, des machettes, et en fait c'est juste avoir un bon abonnement Netflix et du gel hydroalcoolique, en fait.
C'est ça, exactement.
Et bah justement, pour rentrer dans ça, la troisième série que je recommanderais sur Netflix, c'est Friends from College. Je sais pas si tu l'avais vu, cette série.
Friends from College.
Mais c'est ultra fun. C'est avec c'est Ben Savage, je crois, le nom du gars. Il y a aussi Colby Smulders, la Robin de How I Met Your Mother. Et c'est en gros, ce sont un groupe d'amis qui sont quarantenaires. Et qui sont amis depuis l'université, voilà, qu'il arrive des trucs fun, voilà, certains vont se marier, ils font le VG d'un de leurs amis, etc. Et voilà, c'est juste drôle, ça fait penser à autre chose, et tu vois, il y a toujours un peu le côté amitié, on s'aime malgré tout, etc.
C'est drôle aussi parce que c'est des connards et qu'ils se mettent dans des situations où t'es toi hyper mal, si t'es un humain normal... Ça te met hyper mal à l'aise, mais du coup, c'est très drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais d'ailleurs, ça me saoule parce que tu m'as pris deux des trucs que j'avais dans ma liste. Ben... Du coup, je dois changer ma liste. Voilà.
Jean-Yves, sur Netflix, qu'est-ce que
alors,
tu...
Alors, du coup, là, la première, je vais lancer celle-là parce que c'est une série que je suis en train de finir parce que j'avais comblé un retard. C'est la série Mindhunter, série de profiling de tueurs en série. Qui fait partie pour moi des quelques séries ultra qualitatives en termes de mise en scène et de photos et de réalisation. On sent la patte Fincher à fond et je trouve que c'est très lancinant, quoi. Il y a une bonne musique et tout, c'est très, très agréable. Comme c'est, alors c'est un peu badant, hein, c'est clair que c'est un peu badant parce que c'est sur des tueurs en série, mais je trouve ça très cool comme série.
Ouais. Vraiment, en plus, c'est une des séries de Netflix, il y a vraiment beaucoup de... Enfin, qui a du budget, quoi. Il y a de la prod de...
Ouais,
je sais pas si t'avais vu.
Ouais,
Même si ça se voit pas du tout, mais la recréation des années 70-80 est vraiment...
Ouais, c'est
vraiment génial.
Les costumes et tout, c'est trop bien. J'adore l'actrice qui joue aussi dans The Leftovers. Je me rappelle jamais son nom. C'est vraiment très bien.
Ouais.
Du coup, tu veux que je balance direct les trois ou on fait un tour de rôle?
Ouais, vas-y.
Après, j'ai envie de. On est d'accord, c'est pas forcément des séries Netflix, ça peut être des trucs proposés sur le service Netflix.
Oui, proposés sur Netflix.
Alors,
oui.
Du coup, en recheckant un petit peu mon truc Netflix, une des séries que j'ai binge-watché avec le plus de plaisir, c'est la série American Crime Story O.J. Simpson. Qui est vraiment en affaire, qui se regarde d'une traite, qui est vraiment qui m'a vraiment passionné parce que c'est assez proche de ce qui s'est passé en vrai. C'est un peu la preuve que cette histoire est tellement ahurissante qu'il y avait largement la place de faire une série, et que rien qu'avec les rebondissements du vrai procès, ça laisse place à un truc vraiment génial. Donc je conseille vraiment, pour ceux qui sont fans de thrillers judiciaires, O.J. Simpson, ouais. Pour un bon moment de binge-watching. Ensuite, dans la série, si je devais donner une série culte, parce que voilà, on parlait tout à l'heure de est-ce que je peux pas profiter de ce confinement pour me faire une série culte, il y a une série culte, bien sûr, c'est Mad Men. Donc moi, je pense que Mad Men, c'est typiquement une série que je pourrais me refaire, clairement, je pourrais me retaper 4-5 saisons de Mad Men tranquillou.
Fela, elle est dégoûtée parce qu'elle l'avait dans... Mais en fait, jump in et parle-en toi-même. Hein, t'es
non, mais
obligé
je me rends compte que j'ai des goûts absolument quelconques, du coup, parce
non,
que vous
c'est...
avez
mais
pris...
C'est pas... Non, mais Mad Men, ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, ça te fait rentrer dans un univers.
Ouais.
Et là, pour le coup, en parlant d'immersion et d'arrêter de penser au monde qui nous entoure,
voilà.
Mad Men, c'est parfait. Parce
exactement.
Que là, tu rentres dans les années 60, tu prends une cigarette...
tu
demandes du whisky à ton assistant.
Chaque fois que tu rentres dans une nouvelle pièce, tu te sers un bourbon, un cognac. c'est la série où ils ont tous des bars, tous dans leur bureau, ils ont un bar, tu sais.
C'est clair. Genre, tu crois que je vais faire 15 mètres sans boire? Vous êtes ouf ou quoi?
Voilà pour moi. Et dans les séries récentes, alors du coup, ça c'est petite dédicace à ma wife. Ma wife en ce moment, elle regarde Elite, la série des ados en Espagne.
Truc espagnol.
Très sympa. Et du coup, c'est marrant parce que. Donc déjà, c'est pas du tout. Enfin, c'est marrant, c'est tellement over the top que ça lui donne un côté un petit peu rigolo. Le pitch, c'est dans un lycée un peu huppé. Il y a des histoires de un peu de meurtre, un peu de et en fait c'est des jeunes mais qui ont des problèmes de des espèces de problèmes de riches, tu vois, genre ils sont tout le temps en boîte de nuit, en Lamborghini, genre ils ont pas assez de champagne pour leur soirée, enfin. Et du coup, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on regarde ça et du coup on le regarde en espagnol évidemment, et ma wife elle le met en sous-titre espagnol, donc moi je comprends rien à ce qui se passe. Et ce qui est énorme, c'est que avec le body language de cette série, c'est-à-dire que même quand je regarde ça en espagnol, j'arrive bien à comprendre qu'ils ont vraiment des problèmes de merde, quoi. Genre...
Tu captes quand même que l'intrigue est moyenne.
Mais voilà,
non, c'est comme les telenovelas en fait. Tu comprends pas le colombien, mais t'es là, tu te dis ouais, j'ai compris quand même.
On est sur du voilà, je suis sur le top 10, c'est Elite numéro 1, top 10 France aujourd'hui. Donc voilà, je vais me plier à la majorité des gens qui aiment Elite. Voilà, donc petite, je pense que c'est la petite série légère. Et puis aussi, on a eu cette discussion parce que je crois qu'elle est fan parce que il y a un côté très nostalgie année lycée, tu vois. C'est genre
ouais.
Et je crois que c'est ça le truc. Elle m'a avoué, elle m'a dit, je crois que j'aimais trop mes années lycée. C'est pour ça que j'adore regarder des séries avec des lycéens. Voilà.
Ben moi, du coup, vous m'avez piqué tous mes trucs. Mais c'est pas mal, ça m'a obligé à aller chercher d'autres trucs. Alors, pour rester comme Areski dans les dessins animés, moi, je conseillerais Big Mouth. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment cool.
Okay.
Donc, c'est un dessin animé sur l'adolescence. C'est de Nick Kroll. C'est inspiré de l'adolescence de Nick Kroll. Mm-hmm. C'est assez drôle. Je la trouve assez intelligente, hyper bien foutue. C'est surtout une série qui aurait été impossible de faire filmer. Parce que ça aborde la sexualité... assez en profondeur et la sexualité de gosse, quoi. Donc c'était pas possible de le faire avec des vrais acteurs, mais elle est vraiment chouette. Sinon ouais, il y a Atypical, ça tu l'as pas vu, Areski? Je pense
si, j'ai vu la première saison et demie, je pense, quelque chose comme ça.
Atypical, c'est une série légère. Je la trouve assez fun. C'est pas une série qui va révolutionner l'Amérique. Probablement dans 3 ans, je l'aurais totalement oubliée. Mais elle permet de faire passer des vraiment bons moments. C'est donc un gamin qui est autiste. Enfin, pardon, qui est sur le spectre autistique. Et donc, c'est l'histoire de lui et de sa famille. Et je la trouve bien foutue, c'est chouette. Et après, à revoir, ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu. C'est 10%, la série à la base France 2.
C'est fresh, je crois.
Ouais, elle est vraiment cool. Donc c'est sur une agence d'agents d'artistes avec leur talent. Là, il y a un casting initial qui est déjà chouette. Et en plus, à chaque épisode, il y a un invité différent.
Ils ont des guests. Ils ont des guests. Voilà. C'est le entourage français, quoi, un petit peu. C'est ce qu'on aurait aimé voir. On aurait bien aimé un spin-off de Entourage que sur Harry Gold et son agence. Et en fait, c'est un peu 10%, quoi.
Et ce qui est très cool dans cette série, c'est la qualité, la quantité des seconds rôles, en fait. Parce que finalement, tu jumps assez souvent. Par exemple, les personnages des assistants, il y a 2-3 personnages. Alors même si Camille Cotin, elle est quand même trop bien, elle meuble vachement bien, t'arrives facilement à jamais te lasser parce qu'il y a toujours des petits personnages auxquels tu peux te raccrocher qui sont très cool et c'est bien écrit en plus.
Ouais, carrément.
Et je crois que sur Netflix, il n'y a que les 2 premières saisons ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, on y reviendra parce que comme c'est une création originale Canal, ce sera dans les trucs de Canal+, quoi.
Non, c'est une création.
Ah non, pardon, t'as raison, je crois que c'est France 2.
Non, c'est France 2.
Ah, oui, c'est France 2, pardon, je dis n'importe quoi.
Ouais, qui vient de
France 2.
Mais.
Il y a la dernière saison qui va sortir là, dans pas très très longtemps.
Ouais.
D'accord.
Je sais pas, attends, je vais regarder.
Oui, pour le coup, 10%, c'est vrai que ça vaut le coup de. D'avoir Canal+, et quand même de rattraper des choses françaises, quoi. qu'on a pu oublier. Est-ce qu'on passe à...
Alors juste, j'avais oublié, j'en ai une juste à rajouter parce que c'est une de mes séries préférées. Elle est sur Netflix, c'est Luther avec Idris Elba. Série polar british, vraiment trop bien. Très, 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 très noir. Et c'est très dark et c'est... Il y a une ambiance de ouf, c'est trop bien joué, c'est à recommander chaudement.
Tu sais, on aurait dû faire les recommandations en fonction de la journée de confinement. Alors, tu te lèves le matin, tu regardes Friends from College, ensuite tu regardes ça pour dormir, c'est faire ça. Ta petite sieste.
C'est ça.
Et Luther, c'est le soir, tu sais, exactement. À 22h30.
Exactement. Okay.
Ouais. Alors, sur Amazon Prime, pour continuer dans les trucs de, voilà, que vous avez probablement raté, mais qu'en même temps, là, il y a tellement de temps... que c'est le moment. Et je pense que si le confinement continue pendant encore un mois, ça vaut le coup de commencer à regarder cette série. Regardez The Shield. J'ai vu qu'ils ont mis la totalité de The Shield sur Amazon Prime.
Tu penses pas que ça a vieilli un peu? Moi, j'aurais peur que c'est vieilli en mise en scène.
Bon, après, je t'avoue que moi, je sais que je les ai vus sur le tard. C'est-à-dire que je pense que je les ai vus il y a 6 ans quand toutes les saisons étaient déjà sorties. Okay. Je pense. Je pourrais pas te dire. Je sais que mes seuls souvenirs sont le fait que ce soit un truc de caméra à l'épaule, un petit peu en embarquement avec les flics quand ça va faire des choses à l'extérieur. La série, je trouve, elle prend toute son ampleur. Voilà, c'est souvent le truc que les gens disent pour les séries. Non, mais ça commence à partir de la saison 2. Mais là, c'est le cas parce que voilà, c'est une série normalement de network, enfin, américaine, dans le sens où tu sais, les séries classiques, il faut qu'il y ait un méchant par épisode, tu vois.
Ok.
Une enquête par épisode ou quelque chose comme ça. Dès le début de The Shield, on sait qu'il va y avoir un fil rouge, mais le fil rouge est approfondi et entretenu beaucoup plus, je pense, à partir de la deuxième saison, où franchement, c'est une série, par contre, où tu te prends une totale claque à la fin de la septième saison, c'est-à-dire qu'en gros, le dernier épisode de la série a un rapport avec tout ce qui s'est passé dans le premier épisode de la série. Donc c'est vrai que c'est te dire à quel point ça a été bien écrit et bien mené comme ça, ça vaut trop le coup. C'est le mec qui a aussi créé la série Sons of Anarchy, qui a créé The Shield. Donc voilà, moi je recommande ça. Après, j'avoue, cette saison, donc vraiment, il faut partir du principe que vous allez rester encore à la maison pendant longtemps pour ça. Et sinon, deux petites créations originales. Amazon que moi j'aime bien, il y a The Man in the High Castle qui est une dystopie dans laquelle en fait les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ça se passe aux États-Unis pendant qu'il y a une sorte de Reich mondial. C'est tiré d'un roman de Philip K. Dick, le maître du haut château. Et là, pour le coup, il n'y a que 4 saisons et en 4 saisons, c'est totalement terminé puisqu'ils ont dit que ce ne serait pas renouvelé, il me semble. Et je trouve que oui, bon, ça clôt plutôt pas mal le truc. Et une adaptation aussi, mais cette fois-ci d'une BD qui s'appelle The Boys. En gros, c'est qu'est-ce qui se passerait si les super-héros existaient vraiment dans notre monde et en fait étaient à la solde d'une énorme entreprise ultra-capitaliste qui voudrait à chaque fois marketer un nouveau super-héros, ou alors marketer le changement d'un super-héros, voire même marketer parfois des super-vilains qu'ils créent de toutes pièces aussi. Et je trouve ça très drôle, très très grinçant. Et la BD, pour faire le snob, la BD est quand même meilleure, l'adaptation pour le coup est pas ratée. C'est un des rares trucs de super-héros qui est pas mal en série.
Snob et geek, non?
Ouais, mais c'est pareil. Les geeks sont snob au bout d'un moment.
Et du coup, parce que moi, cette série The Boys, elle est dans ma bucket list un peu à regarder en ce moment. Est-ce que parce que j'avais eu cette impression pour Preacher, et est-ce que du coup Il n'y a pas un peu une perte du vitriol Garth Ennis dans la série, où ça reste quand même très proche du texte en termes de vannes et tout, quoi.
Alors, il y a eu des petits changements. Après, le vitriol apparaît à d'autres endroits. C'est-à-dire que, comme toi, moi, j'étais déçu par Preacher. Pour moi, Preacher, c'est une de mes BD préférées, tout court, en fait, déjà. Et la série a. En gros, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui faisait la BD, une BD très forte. Et justement, voilà, d'aller dans la noirceur de certaines choses, mais sans vouloir lui donner des trucs pop. Alors que The Boys, c'est un truc pop. Donc ça va mieux, je pense. Le calque est meilleur, en tout cas. Donc je dirais que non, ils n'ont pas peur de faire vraiment. C'est un rated R. Ils n'ont pas peur d'aller dans le gore ou dans le dégueulasse dans certaines choses, ni dans le malaisant pour certains personnages qui sont dégueulasses, tout simplement. Donc voilà.
Ok.
Voilà.
Moi, je serais pas au top parce que Amazon Prime, c'est un des seuls networks auxquels j'ai pas trop accès, enfin que je vois même pas. Je vois. Est-ce que du coup, parce que je vois là sur un site qu'il y a The Americans qui est sur Prime Vidéo.
Ouais,
Donc
c'est ça.
si ça c'est sur Prime, j'ai envie de vous dire c'est très bien à regarder quoi. The Americans, c'est
C'est
ultra
vrai.
ultra bonne ambiance, good vibes de guerre froide. Donc ça c'est très cool. Et après voilà, j'ai que The Boys qui est sur ma bucket list.
Alors, moi sur Prime, j'ai la série. Si je devais en garder qu'une seule sur Prime, c'est Fleabag.
Ah oui, Fleabag, c'est cool.
Voilà, qui est donc la série de Phoebe Waller-Bridge là, sur une nana de 30 ans, un peu paumée, un peu loseuse, dépressive. Mais c'est super fun parce qu'elle a un humour qui est enfin, c'est un humour aussi assez anglais, un humour assez cynique, assez acerbe. La série est super bien foutue, je la trouve intelligente, drôle. Enfin voilà, j'ai vraiment, c'est mon gros gros coup de cœur Fleabag. Après, dans Prime, il y a une série un peu, c'est une mini-série, je crois, qui s'appelle Forever. C'est avec Maya Rudolph et Fred Armisen. Alors, je peux pas du tout faire le synopsis de la série sans
Sans spoiler.
spoiler. C'est impossible, mais en gros, c'est donc Fred
Voilà.
Armisen et Maya Rudolph sont un couple marié, un peu chiant, sympa mais chiant, et voilà.
Et
Et
voilà.
voilà.
Ils sont mariés, ils sont
Mais
chiants,
c'est drôle.
Voilà.
Déjà, les acteurs, ils sont
Les
ultra
acteurs
drôles
sont
de
géniaux.
base,
C'est
mais
sûr,
le concept est génial.
c'est une série sur l'amour, sur le couple, hein, sur le mariage, qui est vraiment cool, qui est bien foutu aussi. Voilà.
Et il y a quoi? Je crois qu'il n'y a que 8 épisodes ou quelque
Ouais,
chose
c'est
comme
une
ça.
mini-série.
Oui, c'est une mini-série, donc ça vaut le coup, franchement, de tenter,
Ouais,
surtout que c'est
8
des épisodes
épisodes,
de
ouais.
quoi? De 35, 30 minutes? Ouais, voilà,
25, 30, ouais,
exactement.
30 minutes, ouais.
Donc.
Ouais, donc c'est court, c'est vite fait, c'est chouette. Mais après, c'est le genre de série qui reste, moi, elle m'est restée en tête.
En tête,
Ouais, ça m'a fait réfléchir à des trucs.
C'est marrant, tu parles de Fleabag. Moi, j'avais bien aimé cette série. Je suis pas allé au bout, par contre, les épisodes que j'ai vus étaient cool. Et il y a une série avec Camille Cotin qui s'appelle Mouche.
Oui.
Et du coup,
Le
ils ont
remake.
été taxés un peu de plagiat parce qu'apparemment, ils ont dit en mode oui, c'est complètement original, alors qu'en fait, c'est la copie calquée de Fleabag,
Ah
quoi.
non, mais c'est une copie plan par plan.
Plan par plan, ouais.
Mais vous
Ah
êtes
ouais.
sûr que c'est pas le
Ils ont mis
remake, en
création
fait?
originale en fait. Quand tu vas sur Canal, il y a écrit création originale Canal.
Mouche, ouais.
Ouais, mais c'est parce que ils ont brandé leur truc en création originale, mais c'est une production. Enfin, c'est comme le bureau, tu sais, ils avaient fait The Office, c'est juste ils ont racheté les droits. Il me
Ouais,
semble
mais
qu'ils ont
là,
racheté les droits.
c'est-à-dire que c'est les mêmes vannes, c'est les mêmes trucs,
Mais
c'est.
le bureau aussi, pareil.
Ah ouais?
Même pareil pour le premier épisode de The Office US. C'était les mêmes vannes que pour le premier épisode de The Office UK. Donc je pense que c'est juste qu'ils ont racheté les droits. Et parce que là, en fait, parce que là, s'ils n'ont pas racheté les droits, c'est bizarre,
Non,
quoi.
mais c'est bien sûr qu'ils ont
Ah,
dû
bon,
racheter les
voilà.
droits, vu que de
Oui.
toute façon ils diffusaient Fleabag sur Canal avant.
Non, après, c'est vrai que oui,
Mais en fait.
le tact aurait voulu qu'ils disent pas, enfin, création. Enfin, mais après, c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'ils donnent
Non, mais
de
après, ce
l'argent
qui était
pour créer
marrant,
une
c'est que
série,
dans il y
mais.
avait un article où il y avait Camille Cotin clairement qui disait non, pas du tout, quoi. Enfin, t'as envie de lui dire,
Ouais, bah
mais
là c'est.
seriously? Genre.
Oui.
Mais en fait, moi, je comprends pas du tout l'intérêt de
De
Mouche.
changer
Je
le.
comprends pas. En fait, maintenant, c'est bon, il y a des sous-titres.
Ouais,
Enfin, tu vois, genre, c'est bon, quoi. Les gens qui parlent pas anglais, ils ont les sous-titres. La série, tu peux pas faire mieux. Enfin, tu peux difficilement faire mieux. Moi, j'adore Camille Cotin. J'ai voulu regarder Mouche, j'ai tenu à peu près 3 minutes, je crois, à peu près. Mais je comprends pas. Il y a déjà un truc qui est génial, qui est vachement bien fait.
Surtout si, justement, les gens ne comprennent pas ce qui a été fait pour revenir à The Office UK, The Office US. The Office US a pris toute son ampleur quand, justement, ils ont dit, bon, on est aux États-Unis, on peut pas faire la même chose qu'en Angleterre. On va créer nos trucs nous-mêmes et nos blagues nous-mêmes et on va donner... des vibes différentes
mais
aux personnages.
C'est la vraie différence, c'est que vraiment, on arrive à sentir l'empreinte culturelle, en fait. Quand tu regardes The Office US et The Office UK, ça n'a rien à voir en termes de vibes, quoi.
Du coup, l'intérêt, là, c'est beaucoup plus, tu dis on va faire un Fleabag français, c'est tu dis, bon, ben, qu'est-ce qui est différent en France ? Et à ce moment-là, en fait, dès le début, effectivement, du coup, tu fais pas un truc plan par plan avec les mêmes vannes.
Surtout que c'est comme ce que tu disais, Fela, c'est que nous, on est typiquement pas un public qui, le public français, en général, n'a pas peur des sous-titres. Enfin, Parasite a fait 1,5 million d'entrées
sous-titrées.
Ce serait un public américain, je dis pas, mais là, c'est vrai que franchement, surtout en plus, le produit original est de très bonne qualité. Donc,
mais oui.
Voilà, c'est vrai que...
Aucun intérêt. Puis je sais pas, après, j'ai pas vu la suite, mais s'ils ont traduit... Les vannes, s'ils ont je trouve qu'il n'y a rien de plus mauvais qu'une vanne traduite, tu vois. Donc, c'est...
Non, mais même, ce que je veux dire, c'est que là, en 2019-2020, tu es obligé de dire dès le début, regardez, on a fait autre chose, quoi.
Oui.
Parce qu'effectivement, admettons qu'à partir du deuxième épisode, c'est un truc qui a été adapté, ultra français, et que ce n'est pas du tout les mêmes vannes. Bah, du coup, ils t'ont perdu toi parce que t'as regardé le premier épisode et où tout a été copié. Et donc, voilà.
Non, puis c'est pas une petite. Enfin, tu sais, genre Fleabag, elle a eu je sais pas combien de Emmy. Enfin, tu vois, genre, c'est une série qui a eu de la reconnaissance et qui est très récente.
Oui, c'est comme genre, on a fait un Game of Thrones français.
Voilà, c'est exactement ça en fait.
Genre Kaamelott en drama, tu sais. C'est le truc nul.
Voilà, et la dernière série, allez, je vais pareil faire une création originale Prime, c'est Marvelous Mrs. Maisel.
Ouais.
C'est donc l'histoire d'une stand-upeuse à la fin des années 50, début des années 60, qui est de l'Upper East Side juif new-yorkais. C'est pareil, c'est drôle. Moi j'ai voulu faire une sélection parce que je me soucie de la santé mentale des gens qui vont nous écouter. Donc c'est que des séries un peu feel good. C'est pas des séries où vous allez vous sentir mal après. Et Marvelous Mrs. Maisel, ça fait bien le job. C'est drôle. Elle casse pas des briques, mais franchement, elle est très chouette. Tu la regardes avec plaisir. C'est une bonne série à regarder en ce moment, je trouve.
C'est vrai que par contre, si tu regardes ce qu'on a choisi, genre Jean-Yves et moi, on est genre sur du Mad Men, genre se poser des questions sur le sens de la vie, genre de Shield, la corruption policière. Vous avez raison. Prenez des comédies aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on a sur tout ce qui est Canal, tout ce qui est... Alors là, c'est difficile parce que Canal, comme ils ont racheté tout OCS, je sais pas quoi, je sais pas trop.
Bah, on s'en fiche.
On fait un fourre-tout de tout ce qui est trouvable.
Ce qui est trouvable sur Canal.
Ouais, voilà.
Canal et puis OCS, ça fait la rupture HBO aussi, parce que sur OCS, c'est
exactement.
Une bonne série, c'est quasiment que des trucs HBO. On peut commencer par Canal+, peut-être.
Ouais, totalement. Bah, à la limite, pour continuer juste peut-être dans les... je vais faire une redite de ce que tu avais dit. C'est vrai que le Bureau des Légendes et le Baron Noir, pour moi... Alors, Baron Noir, peut-être un cran au-dessous, même si j'ai quand même apprécié la saison 3 que j'ai vu récemment, mais le Bureau des Légendes, une série incroyable.
C'est ouf.
C'est meilleur qu'Homeland, quoi. Il faut le dire. C'est-à-dire que tu vois, ce que j'adore dans Homeland, le côté un peu, où on a l'impression de toucher du doigt une espèce de véracité de ce qu'est un analyste de la CIA ou des choses comme ça. Le Bureau des Légendes avec le petit côté fonctionnaire français. Je me dis, ça ne peut que être comme ça. Et effectivement, quand tu te renseignes un peu plus sur la série, comment ils l'écrivent et la writing room du Bureau des Légendes, tu te dis que oui, ils ont bien fait leur devoir à la maison et tout paraît assez réaliste. Et en fait, voilà, il te suffit de pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'explosion tous les épisodes pour te rendre une intrigue d'espion. Magistral, et ça je trouve ça génial, et avec un Mathieu Kassovitz toujours
et
en forme,
et c'est du vrai espionnage en plus, quoi. Et dans le sens où il n'y a pas grand-chose avec, avec trois clous, deux crottes de nez, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais... Et Eric Rochant, maintenant, il a été invité aux States plusieurs fois par des boîtes de prod, parce que du coup, il est vu comme un peu le spécialiste de comment faire une trop bonne série avec pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup d'argent, en fait, quoi. C'est-à-dire que tu es dans une espèce de grandeur scénaristique à chaque fois, parce qu'il se passe des trucs de ouf, c'est super bien joué, il y a une quantité de second rôle ultra qualitatif, et c'est ultra prenant, quoi. Enfin, franchement... Il y a des moments de climax de ouf, ils arrivent à se renouveler vachement bien à chaque saison en prenant un espèce de pôle d'actualité. Tu peux très bien aussi bien être en Syrie qu'en Russie, qu'en Europe de l'Est, enfin, c'est ouf quoi. Et vraiment c'est une série à recommander. La saison 5 arrive bientôt. Piloté, ouais. Piloté, semi-réalisé par Jacques Audiard, quand même, voilà, il faut le dire. Donc ça va picoter. donc voilà, Bureau des légendes, c'est THE série à binge-watcher pendant cette période de confinement, j'imagine, ouais, je suis d'accord.
Yes. Ensuite, bah écoutez, je sais pas, je vais balancer. Est-ce que vous avez d'autres créations originales, du coup, Canal à lancer avant qu'on se balade sur les HBO et autres?
Ouais, moi j'en ai plein. Déjà la première en mode grosse déconne, et là ça peut vraiment aider à vraiment déconnecter, ces Platanes de Eric Judor.
Ah bah oui, putain.
Parce
oui.
Que en fait il y aurait tellement pu avoir un épisode Platane coronavirus, c'est sûr qu'il aurait, ça aurait pu exister.
C'est problémos quelque part.
Il y a un espèce de détachement de second degré, d'humour surréaliste en permanence, que c'est vraiment très drôle. Il a réussi à créer un produit unique qui existe nulle part ailleurs. C'est super bien joué, c'est super bien écrit, c'est super drôle. Donc vraiment, grosse déconne. Et c'est pour cette série que je m'étais réabonné à Canal, parce que j'avais pour voir la saison 3. Et ouais, vraiment, saison 1, 2, 3 de Platane, c'est du pépitos, quoi. C'est vraiment, c'est délicieux. c'est vraiment trop drôle. Et après, moi, la série qui m'a foutu une énorme claque, mais vraiment, alors je sais que c'est difficile, moi j'ai tendance à m'emballer, à être surenthousiaste, mais là j'assume complètement mon surenthousiasme, c'est la série 000, série 3T Télérama, quand même, il faut le souligner.
C'est tellement rare.
C'est une série, en fait, c'est par les créateurs de Gomorrah. Donc c'est une série qui a mis trois ans de développement. C'est une série sur fond de cartel à l'échelle mondiale, puisqu'on suit à la fois une intrigue qui se passe en Calabre, en Italie, avec le petit baron, petit mafieux italien. On est aussi au Mexique, à Monterrey, dans l'enfer des cartels mexicains. Et on est avec la famille de courtiers corrompus de Gabriel Byrne. Et en fait, le concept scénaristique, le concept de mise en scène de la série, c'est qu'à chaque épisode, à un moment donné, il va y avoir un espèce de plan en slow motion de ouf avec un thème musical qui s'approche d'un personnage. On va comprendre qu'il s'est passé quelque chose et il va y avoir un énorme flashback de 30 minutes. Et en permanence, tu es à la croisée des chemins où tu remontes pour savoir comment tu es arrivé à ce moment d'intrigue. Et c'est ultra ambitieux parce que tu es en permanence sur trois histoires différentes. C'est super bien réalisé, c'est ultra violent, il y a des scènes vraiment, vraiment dures, ça a vraiment assez chaude, mais c'est vraiment une série incroyable, vraiment 000, c'est grosse tuerie quoi.
Ok, j'ai vu le pilote pour l'instant, donc tu recommandes, t'as tout vu
Moi j'ai tout, j'ai tout enchaîné, c'est trop bien quoi.
Ok, bon, génial. Quoi d'autre sinon comme chose qui m'était créée
comme création par... originale Canal, il y a Hippocrate, mais alors est-ce que c'est une série à recommander en ce moment ou pas, je sais pas.
Ah oui, putain, c'est vrai que là
radical
n'empêche, voilà, si vous voulez voir la réalité d'un service de quoi déjà, d'urgence, non, je sais plus, de Réa, je sais même plus,
je crois que c'est Réa.
Ouais
c'est Réa. Ouais, après ça peut être un peu anxiogène je pense en ce moment, parce que le truc de départ c'est qu'il y a des médecins, genre les médecins titulaires sont mis en quarantaine.
Ah oui, c'est vrai.
Et que du coup le service n'est dirigé que par des internes.
Ouais. Et ça c'est, mais après on voit le mode normal du service qui est déjà difficile. Tu vois ce que je veux dire? Genre à base de déjà, de base, c'est difficile d'avoir des lits et tout ça, donc imaginez maintenant.
Donc pour après, quand vous irez mieux, quand vous aurez plus d'anxiété liée au confinement, vous pourrez regarder Hippocrate.
Est-ce que tu crois qu'en ce moment, les médecins, pendant leur pause déj, ils regardent Hippocrate pour décompresser?
Ouais, c'est ça. Ils font genre, oh là là, t'as vu la place qu'ils ont? Ils ont pas besoin d'avoir 6 gants sur eux à chaque fois.
Je pense qu'en ce moment,
sinon, je suis en train de voir que pour les gens qui aiment les films de braquage, il y a aussi Braco, qui est une série un peu ancienne maintenant, mais qui est tout à fait regardable, qui est tout à fait divertissante.
Les deux premières saisons, voilà. Peut-être un petit peu. Après, je sais, enfin,
c'est moins
après bien, Braco, quoi. Tu sais, c'est Olivier Marchal, c'est un peu, tu sais, j'ai l'impression que c'est un gars, c'est toujours un gars soixantenaire qui te raconte avec son argot dans un PMU une histoire de braquage. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas à quel point c'est vrai et à quel point c'est. Voilà.
Et tu sais, toujours un côté pour filer ta métaphore du PMU, là, c'est un peu daté, quoi. Tu sais, t'as l'impression que le gars, il est en décalage avec son temps, un peu.
Mais
sais,
oui, c'est
genre,
ça.
Oui, à l'époque, j'étais en Renault 25. Voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé à regarder la série Validée, la série de Franck Gastambide sur le rap français. Et
alors, c'est bien?
Bah, franchement, j'ai regardé le premier épisode, c'est fresh, quoi. Ça a l'air très cool. Et voilà, donc c'est, je pense que ça peut être sympa comme petit programme, très divertissant.
Okay. J'ai eu une amie humoriste qui m'a dit qu'elle l'avait regardé, qu'elle était bien contente de finalement avoir choisi le monde de l'humour et pas le monde du rap, comme elle... alors, bah, sinon, il y a tous les trucs voilà, que Canal offre, qui est un peu genre les séries juste après les US, les choses comme ça. Et on va rentrer dans le monde des séries HBO, des séries Apple TV, etc. Moi, j'ai envie de recommander des choses que vous n'avez peut-être pas vues, même si tout le monde en parle dans les cercles... privé des sériephiles, des choses comme Succession.
Oh là
c'est
là,
le moment
Succession.
C'est le moment de regarder ça. C'est le moment de regarder des milliardaires qui, eux, n'ont absolument aucun problème pendant ce confinement parce qu'ils sont sur leur île privée.
Où ils ont recréé un monde pour faire croire qu'ils étaient dans le vrai monde, mais en fait, ils sont complètement fermés sur eux-mêmes, quoi. C'est trop bien.
Exactement. Et leurs assistants, ils sont sous cellophane avec du gel hydroalcoolique dessus, etc. Mais Succession, c'est une série géniale d'un patriarche d'une famille milliardaire qui est sur le point de léguer un petit peu son poste de PDG à son aîné. Et du coup de la lutte de pouvoir qui va s'en suivre. Et là, il y a eu trois saisons. On a regardé trois saisons.
Deux saisons.
Putain.
La trois arrive bientôt.
Et les acteurs sont vraiment incroyables.
Ah ouais.
Alors il y a Brian Cox pour le plus connu qui joue le patriarche, mais les protagonistes comme putain, du coup je me rappelle pas des noms des vrais acteurs, mais le mec qui joue Kendall, l'aîné de la famille. Qu'on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus dans les films, parce que maintenant les gens ils savent que il faut lui donner des choses à ce gars. Et
qui joue dans The Big Short d'ailleurs, que j'ai revu, qui joue vachement bien. Ouais.
Exactement. Il y a aussi le petit frère Culkin qui joue
il est
dedans.
Énorme, lui, oui.
Et Saoirse Ronan, non, c'est ça, c'est un nom très irlandais pour la.
Faut pas dire Circe, non.
Charzy, ça se prononce Charzy, je sais plus.
Shibon,
c'est son, le nom du personnage. Ouais. Mais je crois que...
Tu crois qu'elle est irlandaise, l'actrice?
Il me semble que c'est elle qui a un prénom un peu irlandaise.
Il faut passer au-delà du truc parce que c'est des gros milliardaires. Enfin, pour donner une idée du niveau de richesse des gens, c'est des gens, en fait, quand ils arrivent chez eux, c'est un peu pour... ça revient au truc Mad Men, c'est qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, il y a un serveur avec des coupes de champagne dans toutes les pièces. Chaque fois qu'ils rentrent dans leur appart, ils boivent du champagne.
Dans un de leurs 1000 appartements.
Et c'est vrai, c'est marrant parce que du coup, j'ai survendu cette série à plein de gens autour de moi et mes parents, par exemple. Par exemple, mon père, il n'a pas réussi, ça l'a dégoûté en fait, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, il y a une opulence telle que ça peut vraiment donner la gerbe à certaines personnes, parce que c'est vraiment... Et puis eux, ils sont vraiment dans une espèce d'arrogance permanente de tout est de la merde autour d'eux, que ça n'aide pas évidemment. Mais en fait, je crois que c'est une série qui va vraiment au-delà de ça, c'est quasiment shakespearien en fait, parce qu'il y a... chaque personnage, en fait, dans la relation du père à ses enfants, c'est quand même un père qui passe son temps à écraser ses enfants autour de lui, à les manipuler. C'est quand même, pour donner une idée aussi de la relation entre les personnages, c'est des gens qui, en permanence, ils sont au repas de famille, mais ils parlent en avocat interposé. C'est genre, oui, mon avocat appellera ton avocat, tu sais. C'est ce niveau de relation-là.
Et puis même dans la fratrie, il y a ce côté où, en fait, tu sens qu'il y a peut-être un amour fraternel sous les mille couches de backstabbing, tu sais, et de poignarderie dans le dos de toutes ces personnes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, là, ça t'a dégoûté, mais parce qu'en fait, c'est une série qui est, je pense aussi, très réaliste sur leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu verrais une série où ce serait comme Richie Rich, tu vois, pour rester chez les Culkin, tu vois, où tu vois, ce serait l'abondance, mais dans le fun, où tu vois, il y aurait quelqu'un qui serait riche, mais qui serait fait un peu de manière caricaturale. À la limite, tu t'en foutrais. Mais là, tu te dis non, en fait, c'est comme ça qu'ils vivent. Avec ce même dédain pour toute personne qui gagne moins d'un million de dollars par jour, tu vois.
Oui, mais moi, personnellement, je j'aime pas regarder des séries qui me... que je trouve trop... En fait, si j'ai envie de voir de la violence sociale, je sors dans la rue et j'en vois. J'ai pas besoin d'en voir en divertissement. Enfin, moi, j'ai du mal à supporter ça. Ce genre de... Parce que pour moi, c'est violent, en fait. Ouais, c'est de la violence.
Ah, mais c'est clair.
Dans le pilote, il y a une scène quand même ultra violente.
Elle est horrible.
Qui est, à un moment, donc, il joue au baseball avec, à un certain moment, l'enfant d'un homme à tout faire, je crois, d'une de leurs résidences. Et un des enfants, donc milliardaire, dit au gamin, je te fais un chèque $1 million si tu arrives à faire un home run. Et avec les parents qui regardent, les parents donc qui ne gagnent rien et qui sont d'ailleurs des employés. Et si tu veux, tu sais que c'est réel pour lui et tu sais que ça va changer totalement la vie de cette famille-là. Et c'est horrible à regarder. Mais
et pour qu'ils disent rien, il file une montre à $10 000 que le gendre a acheté parce qu'il savait pas quoi offrir à son beau-père.
Ouais.
Ce personnage d'ailleurs, il est d'une tristesse infinie quoi. Il y a des scènes. Vous avez vu les deux saisons du coup?
Moi, j'ai vu les deux saisons, ouais.
Moi, je me suis arrêtée au pilote à cette scène du baseball-là.
À un moment, parce qu'en fait, si tu veux, il y a le personnage de Shibon est intéressant parce que du coup, c'est un peu cette femme qui est dans un monde d'hommes et qui plus est financier, donc du coup, qui souvent est obligée d'avoir une posture un peu masculine et qui est totalement dans cette posture-là dans son couple, en fait, puisque tu as le gendre un peu complètement écrasé. Et il y a des moments vraiment... très très fort où tu vois, tu sais, il dit bah en fait je me rends compte que, parce que c'est ça en fait, c'est des gens, ils ont tout l'argent du monde mais ils sont malheureux comme pas possible, ils sont tristes, ils sont complètement névrosés jusqu'à la moelle, et à un moment ce gars dit mais en fait je suis en train de me rendre compte que je suis plus malheureux en fait quoi, je sais pas ce que je fais là parce que on est dans une telle violence dans les relations par rapport à cet écrasement de l'argent que finalement tu te rends compte que finalement, c'est peut-être paradoxalement une série ultra anticapitaliste sur cet aspect-là, quoi, que tu vois à quel point les gens se font broyer, quoi.
Totalement, parce qu'en fait, en les suivant, tu te rends compte que c'est plus vraiment l'argent qui compte. C'est soit, en fait, c'est pas l'appât du gain, c'est l'appât du surgain, du gain en plus, en fait.
Ouais.
ils veulent juste. Et du coup, en fait, c'est que social, c'est que pouvoir dire aux autres je suis supérieur, parce que quand tout le monde est milliardaire, ça ne devient que des relations humaines en fait.
Ouais.
Et donc voilà, c'est intéressant et c'est available on OCS et Canal.
Alors moi du coup la série du moment, on va peut-être en discuter parce que je crois que tu l'as vu aussi, sur laquelle je suis très mitigé mais qui quand même vaut le coup parce qu'elle est divertissante, c'est l'adaptation de Stephen King The Outsider sur HBO. Moi je suis en train de ramer pour finir là, je me suis arrêté au milieu du 10e épisode pour venir vous rejoindre.
Du coup, ne nous spoile pas parce que nous aussi on s'est arrêté, je crois, au 6e, 7e épisode.
Alors c'est peut-être révélateur en fait.
Ouais, parce que,
en fait, bizarrement, cette série, le pitch trop bien. Le pilote, c'est un des meilleurs pilotes que j'ai vu cette année, je crois.
Je pense, ouais.
T'es dans un état d'incompréhension et de what the fuck. C'est-à-dire que t'es à la frontière du fantastique, du polar, du thriller, il y a tout. Tu sais plus où t'habites à la fin du premier épisode. Vraiment, tu sais plus où t'habites. C'est super bien joué et tout. Et après, bah, je sais pas, ça se tasse un peu, quoi. Et il y a un gros ventre mou, tu vois.
Exactement.
Et j'ai l'impression que voilà, c'est une série, c'est polar, il y a du fantastique aussi, il y a du Stephen King à fond. Et je crois que la série n'arrive pas à concilier les deux, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive au moment où voilà, ok, on est dans le Stephen King, quoi. Je sais pas, ça marche plus, quoi. Enfin, j'ai cette impression.
En fait, c'est de l'horreur d'ambiance. Et je trouve que l'ambiance, elle est très bien gérée dans les 3-4 premiers épisodes où ça nous fait rentrer petit à petit, etc. Mais en fait, alors là, même si on est arrivé qu'au 6e, 7e épisode, je crois que la saison ne dure que 10 épisodes.
Oui.
Il y a 3 épisodes de trop, en fait.
Ouais, clairement.
C'est-à-dire qu'à un certain moment, fais raccourcir l'intrigue, tu peux véhiculer la même ambiance, mais en faisant avancer quand même l'intrigue et en donnant plus d'indices à chaque fois que les protagonistes en apprennent plus sur ce mystère. Le mystère étant que voilà, donc un père de famille se fait accuser d'un infanticide, alors avec des preuves, pour le coup des preuves matérielles sur le lieu du crime, alors que lui-même déclare ne pas avoir été du tout dans ce secteur-là à l'heure du crime. Et d'ailleurs, lui aussi a des preuves qui n'étaient pas au même endroit. Du coup, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est le début, effectivement, est vraiment génial. Mais bah, tu l'as dit toi-même, t'as peiné. Moi, nous, effectivement, on n'est plus trop intéressés.
T'es plus dedans, ouais.
Est-ce qu'on va reprendre? Oui, probablement. Mais bon, franchement, c'est la force des acteurs, par exemple, où moi, je me dis, tiens, c'est parce que j'ai envie de revoir Ben Mendelsohn faire des trucs à la télé que je me dirais, tiens, regardons l'épisode 8, plutôt que vraiment la série en elle-même, alors qu'elle commençait très, 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 très bien.
Après, ça dit des choses bien, parce qu'il y a quand même une thématique Stephen King qui est récurrente, c'est ce truc du village, tu sais, où tout le monde se connaît, où ça fait ressortir l'horreur, fait ressortir tout le côté malsain des villageois, en gros. Et après, le truc que dit cette série assez bien, et l'horreur et le fantastique est là que pour confirmer ça, c'est que c'est le truc tabou des enfants, c'est-à-dire qu'une fois que si les gens sont peut-être à moitié convaincus que t'as tué un enfant, ta vie elle est terminée, c'est-à-dire que il faut que tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est bien fait dans la série de dire que t'as tout pour comprendre que peut-être que ce gars est innocent, on sait pas trop, mais c'est terminé, leur vie est terminée, quoi. À partir du moment où et quand j'ai vu cette série, j'ai repensé on en avait parlé dans un fin de séance, tu sais, c'était un communiqué de presse de HBO qui disait que pour combler leur retard par rapport à Netflix, ils allaient peut-être sacrifier un peu de qualité. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est sur le format 10 épisodes. Format, on fait traîner un peu. On voit un petit peu plus de cam. Cette saison, elle est largement faisable en 6 épisodes. Comme tu l'as dit, tu peux enlever 3-4 épisodes sans problème. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, j'adore le format 6 épisodes. Tu vois?
Ouais.
Mais en fait, je comprends pas trop. Alors, je sais pas si d'ailleurs c'est une série qui veut être renouvelée ou pas. En fait, j'aurais très bien vu ça comme une mini-série.
Mais oui.
HBO, ils en ont fait déjà des mini-séries. Ça marche très bien et on est mille fois plus dedans. Ouais. Alors, pour le coup, je pense à, tu sais, celle avec The Night Of.
The Night Of,
c'était 10 épisodes, je crois, aussi. Mais c'était 6. Ouais. Ouais, voilà. Bah, c'est exactement ce qui sera différent. Parce qu'en fait, The Outsider, mine de rien, c'est The Night Of. Fantastique.
Ouais.
Voilà. Et du coup, ça aurait été parfait. Ça me fait peur ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai pas du tout lié le fait qu'une série puisse s'essouffler à une prise de conscience, j'allais dire, économique de la part d'HBO de pouvoir déclarer à l'avance on va faire un peu de la merde. Ça me fait peur pour d'autres séries, mais je sais pas.
Ouais.
Disons que c'est peut-être juste un petit accident. Enfin, encore une fois, ça reste quand même tellement au-dessus de. Tu vois, si je dois choisir entre ça et Elite, je t'avoue que je choisis ça. Hein.
C'est ça. Non, mais ouais. C'était bien que tu parles de The Night Of, parce que moi, ça fait partie dans mes... Je crois que si je devais faire un top 10 de meilleures séries de tous les temps, Night Of, elle serait dedans. C'est trop bien, quoi. C'est quelqu'un qui se retrouve... un pilote exceptionnel, un jeune gars qui se retrouve coincé dans les rouages, dans l'enfer judiciaire new-yorkais, quoi, et qui a du mal à en sortir. Et c'est vraiment... Il y a John Turturro, c'est en 6 épisodes. C'est un peu oppressant, quand même, comme série. C'est un peu badant. Donc, ouais. Pas à conseiller à tout le monde en ce moment, mais ça reste une excellente série. Il y a aussi Tchernobyl. Ouais. Alors, Tchernobyl, là, clairement,
c'est
ultra
aussi.
Badant. En mode fin du monde. Mais Tchernobyl, ça fait partie des meilleures séries sorties sur ces 2 dernières années. Donc, c'est vraiment à chaudement recommandé aussi sur OCS.
Et pour continuer, peut-être juste revenir sur des milliardaires, il y a la série Billions, qui est beaucoup plus pop, ouais. Pour le coup, que Succession. Qui est, en fait, je dirais que c'est un peu la série comme Suits, voilà, la version Suits de Succession,
finance,
dans le sens où, en gros, il y a tout le temps une mini intrigue par épisode qui permet de nourrir un espèce de combat qui est entre un milliardaire qui fait peut-être des choses illégales et le procureur new-yorkais. Qui essaye de le coincer sur un de ses trucs pour en faire sa carrière quelque part, parce que ce serait le procureur qui a mis à mal un des 1% aux États-Unis et qui pourrait du coup améliorer son futur politique. Donc Billion, c'est vraiment très bien.
Moi, après des séries visibles sur Canal, j'ai c'est pareil, moi je vais rester dans le léger, dans le pop. Il y a I'm Sorry, qui est une série de Andrea Savage. Il y a pas vraiment d'histoire, en fait. C'est j'ai l'impression quand même un peu autobiographique de Andrea Savage. Elle joue une mère de famille qui est comedy writer, et voilà, et c'est sa vie. C'est une série excessivement américaine, c'est-à-dire que Andrea Savage, c'est une caricature de californienne, selon moi. Enfin, en tout cas dans ma tête, les Californiens, ils sont caricaturellement comme ça. Mais c'est léger,
sorry,
c'est drôle, c'est vraiment très. Enfin, moi, ça me fait énormément rire.
Ouais, c'est très drôle.
Okay. Et voilà.
Et Andrea Savage elle-même est très drôle. Il y a la présence de Jason Mantzoukas, qui fait d'ailleurs des voix aussi dans Big Mouth.
Oui, c'est vrai.
Et bien ouais. Et ouais, c'est vrai qu'en termes de trucs légers, c'est cool.
Après, j'ai un peu moins léger, mais moi, j'ai trouvé très bien, c'est You're the Worst, qui est une série qui est un peu vieille maintenant. Ça doit faire un an et demi, je pense, qu'elle est finie. C'est l'histoire, en fait, d'un mec et d'une meuf qui sont des connards, chacun de leur côté, chacun à leur manière, et qui se rencontrent, et c'est un peu... l'histoire de est-ce qu'ils vont se choper, enfin c'est un peu leur groupe de potes. C'est une série qui, la première saison est hyper légère, la deuxième saison traite de la dépression de l'un des protagonistes, et je trouve que, enfin, la manière qu'ils ont eu de traiter la dépression, je l'ai trouvé trop bien, sans tomber dans la caricature, sans tomber dans le pathos ou quoi. C'est vraiment très chouette, et voilà, je crois que c'est 5 saisons,
4 j'en ai.
Je sais pas.
En tout cas, c'est...
Mais elle est vraiment top, cette série. Elle est drôle et un peu moins drôle des fois, mais c'est cool. Et j'ai une série qui est disponible sur Canal aussi, qui passe en ce moment sur M6. C'est la série que j'ai téléchargée parce que je me faisais super chier. Où vraiment, j'avais rien d'autre à regarder. Où tu dis, bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu, je vais regarder ça. C'est Why Women Kill de Mark Cherry, qui avait fait Desperate Housewives.
Ah oui.
Et franchement, c'était une bonne surprise. Je m'attendais à ce que ce soit une plus grosse daube, parce que sa dernière série, je crois que c'était Devious Maids, qui était vraiment pas très bien, je trouve. Et là, Why Women Kill, en fait, c'est une même maison à 3 époques différentes. Donc, c'est dans les années 60, dans les années 80 et aujourd'hui. Donc, on suit 3 femmes qui vivent dans cette maison, et on sait qu'il va y avoir un meurtre à la fin des 3 trucs, enfin une mort violente, je sais pas si c'est forcément un meurtre, mais une mort violente. Et voilà, donc c'est les histoires de ces 3 nanas, et il y a ça avec Lucy Liu et Jennifer Goodwin. Et voilà, et c'est vraiment chouette. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est pareil, c'est léger, c'est voilà, Ça va vous faire du bien.
Lucy Liu qui est un androïde, non, qui maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est la même meuf en fait.
Mais c'est ce que j'ai dit à Areski, c'est un truc de malade. La meuf, c'est copié-collé sur il y a 20 ans, mais vraiment.
Genre la meuf,
elle
a des
ouf,
gènes,
quoi.
Elle a des gènes top qualité quoi.
Ah, non, d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, et s'il y a quelqu'un qui vit à Paris et qui connaît le truc, je sais pas pourquoi, dans le quartier de Belleville, il y a des gens qui placardent un poster de Lucy Liu. Voilà, et je sais pas pourquoi en fait. Parfois tu te balades et sur à côté d'une boîte aux lettres, il y a le visage de Lucy Liu et t'es là, mais pourquoi? Donc voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Fin de séance à gmail.com. Peut-être pour nous dire, on deviendra tous des Lucy Liu, c'est ça le futur du genre humain.
Je suis en train de voir que j'ai. Il y a une série dispo sur Canal qui est une série anglaise que j'ai adorée cette année. C'est une série qui s'appelle Years and Years.
Ah oui.
Qui est une série de SF social qui se passe dans un avenir proche avec un leader politique un peu extrême droite populiste qui accède au pouvoir et qui du coup on voit les conséquences. Et il y a tout un truc un peu sur le filon Black Mirror, sur les technologies, l'impact sur nos vies. C'est vraiment. Alors par contre, c'est là pour le coup, c'est très badant en ce moment. Mais c'est vraiment très très bien. C'est genre un one shot en 6 épisodes, je crois aussi. Vraiment très 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 bien. Une série qu'on a commencé là avec Sophie, avec ma wife, qu'on a super accroché. C'est pas une série toute récente. C'est une série anglaise qui s'appelle The Night Manager. Je sais pas si vous connaissez.
Ah ouais. C'est tiré de. Je crois que c'est le bouquin de.
C'est
du gars de
John le Carré.
Ah non, c'est John le Carré.
C'est okay. Un John le Carré, ouais. Donc okay. C'est très. Moi j'aime bien parce que ça fait. Il y a un petit côté James Bond un peu. Tu sais, c'est l'intrigue où ça commence. T'es en Égypte. Il y a un obscur meurtre d'une meuf qui fricotait avec un obscur dealer d'armes égyptien qui fricote avec une espèce de lord anglais. On est dans des hôtels de luxe en Suisse. Tu vois, il y a tout un côté un peu désuet film d'espionnage. Mais il y a Tom Hiddleston qui joue super bien, il y a Hugh Laurie aussi, et on a vraiment été complètement happé par l'ambiance de cette série, donc on va continuer ça avec plaisir, The Night Manager. Et aussi, alors du coup dans ma bucket list, pour ça je voulais vous demander si vous aviez vu, est-ce que vous avez vu une série qui s'appelle Devs, une série de SF?
Non, ça vient juste de commencer à se mettre. Ouais,
qui est très bien noté apparemment avec le gars qui
ouais,
joue
dans. Ouais, je sais que c'est avec Nico Forman. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc un peu à la fois onirique et j'ai l'impression que c'est une version de Ex Machina mais
c'est
en
ça.
Série un peu. Tu
en
vois.
Fait, le pitch là, c'est après le suicide de son petit ami, une ingénieure en informatique va essayer de découvrir la vérité sur une obscure société de technologie multinationale. Donc il y a peut-être un truc un peu Ex Machina comme tu dis. Ça a l'air plutôt cool.
Ouais.
C'est plutôt cool. Et là, je suis en train de voir que sur OCS, dans la catégorie détente totale, il y a l'intégrale de Flight of the Conchords.
Voilà.
Là, typiquement, pour manger le bol de céréales le matin avec le lever du soleil, c'est vraiment perfect.
Alors, moi, j'ai essayé de faire regarder ça à Fla et elle n'a pas du tout
c'est vrai
accroché.
Pas ouais. du tout.
Ouais.
Pas du tout. C'est quoi, on a, c'est quoi,
alors que moi, ça m'a directement emmené vers ne faire que écouter les chansons de Flight of the Conchords sur Spotify.
Et c'est énorme parce que moi, Sophie, c'est pareil. Sophie, au bout de 10 minutes, elle a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi ?»
Donc, il faut tellement être dans le délire. Et d'ailleurs, ça y est aussi, mais il y a leur special Live in London de 2018,
oui.
Je crois.
Très bien.
Et ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des nouvelles chansons qui sont très très drôles et comme d'habitude, ils sont excellents. Ces deux-là. Et sinon, alors, il y a. Juste pour en rajouter encore, pour dire enfoncer le clou des séries d'HBO qui sont sur OCS, il y a The Newsroom. Newsroom, j'ai toujours adoré les séries d'Aaron Sorkin et celle-là, je la trouve géniale. C'est
Newsroom, ok.
Elle est, alors pour le coup, elle est à propos par rapport aux médias et de comment les journaux télévisés sont réalisés. Sauf que bon, c'est toujours biaisé parce que bien sûr, c'est une série d'Aaron Sorkin, donc c'est comment les journaux télévisés seraient faits si tout le monde était intelligent derrière et devant la caméra, ce qui n'existe absolument pas dans le monde réel. mais ça vaut vraiment le coup de voir ça. Et j'aime bien parce que toi, du coup, tu regardes maintenant. Moi, je redécouvre un petit peu des trucs et je me rends compte que c'est à quel point Aaron Sorkin a fait une série, parce que je crois que c'était en décalage par rapport aux vraies news de un an. Et il a fait une série de ce qu'il aurait aimé voir comme journaux télévisés un an en retard. à chaque fois pour les choses qui se passaient. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il y avait des trucs à l'époque, c'était du Tea Party, et dès que voilà, Ben Laden a été tué par les Neville Seals, etc., il s'est posé comme question, qu'est-ce qui aurait été intelligent pour un journal télévisé de couvrir à ce moment-là, et comment en parler, etc. Et il l'a fait comme ça.
Et moi, ce que je trouve intéressant en regardant cette série, c'est que tu comprends un peu mieux comment on en est arrivé à Trump. Parce que
oui,
c'est une série qui commence en 2001, je crois. C'est 2011, pardon. 2011. C'est sur les news de 2011. Et en fait, tu comprends totalement pourquoi Trump a été élu derrière, quoi.
Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en fait, le gars te dit, voilà comment il fallait pas faire du Fox News.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une autre série qui parle de Fox News et exclusivement de Fox News qui s'appelle The Loudest Voice, qui est aussi disponible sur OCS Canal, où Russell Crowe joue le rôle de Roger Ailes, le créateur de Fox News, et à quel point ça ne l'intéressait pas, bien entendu, de faire un journal télévisé d'information, mais plutôt de créer un pouvoir de droite médiatique, et qui s'en cachait pas du tout à cette époque-là, mais de manière totalement à des fins capitalistes, et là aussi il s'en cachait pas du tout à cette époque-là. Et c'est vrai que de voir les deux séries, ça peut totalement te faire comprendre pourquoi et comment une mauvaise gestion d'information crée des antivax, quoi, tu vois.
Ouais. D'ailleurs, sur Netflix, il y a une série documentaire sur Trump qui est vachement bien, je sais pas si vous l'avez vu. C'est assez ouf. Moi, je suis tombé là-dessus complètement par hasard et j'ai tout regardé. Du coup, c'est le Trump des années 80-90, tu sais, en mode Playboy à New York. Chaque semaine, la une des journaux avec quel mannequin russe et cette semaine Donald Trump. Enfin, c'est complètement ouf, ce personnage. Et c'est assez intéressant parce que ça te fait vraiment comprendre des choses, quoi. Tu arrives à comprendre le niveau de fame et le niveau de notoriété que ce gars a, comment ce gars a construit cette notoriété-là, quoi, en mode mania des hôtels et tout. Et c'est assez cool. Est-ce que vous regardez Westworld ?
Non.
Moi, j'ai regardé les deux premières saisons. Je sais que la troisième est sortie. J'attends qu'il y ait un poil plus d'épisodes pour commencer à regarder.
Ok. Je rattrape mon retard. Moi, j'avais même pas fini la saison 1. Donc, est-ce que tu me conseilles de continuer ? Ça vaut le coup, saison 2 ?
Ouais, définitivement, ouais. Parce que plus tu vas continuer, plus des questionnements philosophiques vont apparaître dans cette série. Tu te rends compte qu'en fait... de toute façon, c'était un peu déjà le cas dans la première saison. Mais en gros, tu regardes un Neo Blade Runner, quoi.
Ah, c'est cool.
En fait.
Ok.
Donc, c'est intéressant.
Bon, je vais continuer ça. Et pour enfoncer le clou, je rappelle aussi qu'il y a quand même 3 saisons de True Detective sur OCS. Et notamment la saison 3, que moi, j'ai surkiffé. Qui peut-être est la mieux, en fait, en termes de scénario, de gestion de plusieurs trames temporelles.
Ouais.
Voilà.
Moi, j'ai une recommandation Apple TV que je n'ai pas encore regardée, mais qui a l'air très très bien. C'est Little America de Kumail Nanjiani et Emily Gordon.
Okay.
Je crois que c'est une mini-série. Il y a pas beaucoup d'épisodes. Je vais dire 6, je crois, ou 8, je sais pas. C'est des petites histoires. En fait, c'est tiré d'histoires vraies sur des immigrants aux États-Unis qui ont été publiées dans je sais plus quel journal. Et donc ils ont fait une série. Une anthologie, en fait, de ces histoires en série, et il paraît que c'est très chouette.
Okay.
Et j'ai très hâte de les regarder parce que j'aime beaucoup ces deux personnes. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ouais, The Big Sick,
c'est cool, ça.
Ouais.
Très cool.
Et c'est marrant, ça, parce qu'il y a aussi l'autre série qui s'appelle Modern Love, qui est sur Amazon Prime, où tu sais, ils ont repris pareil une anthologie du New Yorker, et ils ont fait un épisode par article du New Yorker.
Okay.
Et si on continue, j'en ai déjà parlé, je pense, 2-3 fois maintenant en fin de séance, For All Mankind, c'est une série de Apple. C'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Russes qui avaient posé le pied sur la Lune. Et c'est excellent.
Voilà. Ça te plaît, la dystopie, toi, t'aimes ça, hein, ça c'est...
Mais en fait, j'ai réalisé ces derniers temps que je ne regardais... Enfin, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, toutes mes séries préférées, c'était que des dystopies, en fait. C'était For All Mankind, The Man in the High Castle. Je sais pas encore quelle autre série j'aimais bien, mais à chaque fois, c'était un truc qui change de notre réalité, qui fait qu'au final, tu la comprends mieux, quelque part. C'est comme si c'était un truc mathématique, en fait. C'est très facile de parler de tous les problèmes qu'on a autour de nous quand tu ne fais que changer un seul paramètre. Et je trouve que c'est très intelligent. Bon, ça va s'essouffler forcément au bout d'un moment, mais voilà.
Et du coup, en parlant de jouer avec la réalité, sur Canal, il y a disponible un des trucs sur lequel j'ai le plus rigolé en termes de rigoler quand ça résonne dans une pièce. C'est Who is America de Sacha Baron Cohen.
Ah ouais.
Je sais pas si vous avez vu ça. C'est exceptionnel. C'est en fait Sacha Baron Cohen. Chaque fois, il arrive à dire, ben je vais réussir à vous avoir. En fait, je vais réussir à me redéguiser et je vais vous reprendre et je vais vous retourner. Il a des personnages complètement trop bien. Il a l'Américain complètement décérébré, sur un espèce de chariot qui parle à Bernie Sanders et qui lui dit des trucs complètement stupides. Genre, il lui dit mais pourquoi avec les 1%, tu sais, genre il est devant
ouais, Bernie Sanders. Dit, pourquoi on serait pas tous des 1%?
Pourquoi on met pas tout le monde dans les 1%? Et le plus gros fourré, c'est il a un personnage du gars un peu. Le vieux mec un peu hippie démocrate en claquette, ah ouais, ouais, tu sais, et ouais, qui ouais, à un moment il est dans un espèce de conseil municipal, donc vraiment
en Arizona,
un conseil municipal ultra redneck, quoi, tu vois, avec des gens un petit peu qui sont venus avec leur casquette Harley Davidson, et en fait il présente le projet de la ville, il leur explique qu'il va construire la plus grande mosquée du monde en dehors du monde arabe. Et en fait, c'est trop bien parce que là où il est trop fort, Sacha Baron Cohen, c'est qu'il rentre dans une faille, en fait, il appuie, tu sais. Et ouais, genre, dès que les gens commencent à s'énerver, il montre des espèces d'images où il y a des gens, ils se battent en chameau dans la ville, tu sais. Et les gens, et en fait, tu vois la foule qui s'est là, et c'est ça en permanence. Il a quand même réussi à faire virer. Il y a quand même un député qui a dû démissionner parce que tu sais, son personnage de
colonel israélien,
Mossad,
là,
ah, le gars, oui, du Mossad, il lui fait quand même dire le N-word en criant. Enfin, même lui, il est surpris du truc. Le gars a dû démissionner par la suite. C'est vraiment, c'est incroyable. Ce mec, il est. Je crois qu'il est, c'est vraiment, on parle pas assez du fait que ce gars est trop talentueux, en fait, le talent de ce mec,
ouais,
en termes de ce qu'il est capable de faire, en termes d'humour, mais aussi en termes de commentaire social, en fait, c'est juste incroyable. Et donc la saison 1 est disponible sur Canal et c'est une pépite.
Ouais, c'est-à-dire qu'il amène quand même la caméra cachée à de l'art, quoi.
Oui.
Dans le sens où il a un message,
oui,
et la façon dont il a à le délivrer par la caméra cachée, c'est trop bien.
C'est ça. Ça.
Bon, bah écoutez, j'espère qu'avec toutes ces recommandations, vous saurez quoi regarder. N'hésitez
vous
pas
en
à nous envoyer.
Jusqu'au mois de juillet, là, non, si
ouais,
on est confiné jusqu'au mois de juillet.
C'est clair, on peut résister au coronavirus, aux astéroïdes et au prochain coronavirus. Envoyez-nous vos recommandations sur finseance@gmail.com et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà. Et merci, du coup.
Merci.
À vous deux.
Et lavez-vous les mains.
Bisous.
Bisous, bye bye.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.